VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Mali, les résultats de la communale du 20 novembre donnent le parti au pouvoir perdant dans 10 des 19 communes urbaines du pays. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Avec les résultats des communales du dimanche 20 novembre, on constate que le Rassemblement pour le Mali, parti au pouvoir, a perdu dans plusieurs localités. À Bamako, le RPM a perdu dans son fief de la capitale, en commune 4 du district de Bamako, au détriment du parti Yelema. Les autres grosses pertes du RPM ont été enregistrées au niveau des communes urbaines, au nombre de 19. 10 seront gérées par le parti IRD de l'opposant Soumaïla Cissé, dont le parti a gagné dans plusieurs localités du pays. Le RPM a perdu à Mopti, Kati, Kita, Bougouni, Kouchala, San et surtout à Sikasso, l'un des plus grands bastions électoraux du pays. Mieux, la plupart des responsables du parti au pouvoir, qu'ils soient ministres, présidents de l'Assemblée nationale ou des directeurs nationaux, ont tous perdu presque dans leurs localités respectives. Selon bon nombre d'observateurs, le scrutin du dimanche 20 novembre ressemble à une sanction pour le régime en place, car c'est le parti IRD de l'opposant Soumaïla Cissé qui se positionne très bien pour la gestion des communes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Nigeria, Amnesty International accuse les forces de sécurité nigériennes d'avoir réprimé dans le sang des manifestations pacifiques pro-Biafra dans le sud-est du pays, entraînant la mort d'au moins 150 personnes entre août 2015 et août 2016. Pour Samira Daoud, la directrice régionale d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'usage de la force a été disproportionné.
C'est clairement une opération visant à semer la terreur et à réprimer de manière meurtrière. Il ne s'agit pas de cas isolés, il ne s'agit pas de bavures, il s'agit véritablement d'ordres qui auraient été donnés. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est manifesté sur le terrain, où les militaires sont venus pour clairement finir avec les manifestants.
Samira Daoud, directrice régionale d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cameroun, une femme kamikaze s'est fait exploser ce matin dans la ville de Mora, dans la région de l'extrême nord du pays, où des djihadistes nigériens de Boko Haram mènent régulièrement de telles actions. Une seconde kamikaze a été tuée par l'armée avant d'actionner sa charge, selon des sources militaires. Le jeudi est traditionnellement jour de marché à Mora, ville stratégique dans le dispositif de lutte contre Boko Haram. La ville abrite notamment le quartier général du premier secteur de la force multinationale mixte, la FFM, une coalition régionale créée par le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad, auquel s'est ajouté le Bénin, pour combattre les membres de Boko Haram. Trois civils avaient été tués à Mora le 21 août dans un attentat suicide. En Centrafrique, les affrontements entre factions et rivales de l'ex-Sénégal ont fait plusieurs morts, selon la MINUSCA, la mission de l'ONU, sur place. Les détails avec Eddy Isango.
D'après Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA, il y a eu au moins 16 morts et des milliers de déplacés et ces bilans pourraient s'alourdir. La MINUSCA a annoncé des renforts pour protéger quelques 5000 civils réfugiés près de sa base à Bria. Les combats ont éclaté entre les Fronts populaires pour la résistance de la Centrafrique, les FPRC, de Nouridin Adam et l'Union pour la paix en Centrafrique, l'UPC, d'Ali Daras. Les deux factions de l'ex-Séléka s'accusent mutuellement. Lambert Lissane, proche de Nouridin Adam, affirme que les FPRC et Ali Daras, chef de l'UPC, ne seraient pas partants. Les gouvernements de Bangui tentent de rallier 14 groupes armés à un accord de désarmement pour consolider une paix fragile dans un pays ravagé par la guerre civile.
Rwanda, Kigali juge inadéquates les excuses présentées par l'Église catholique rwandaise pour le rôle de certains de ses membres lors du génocide rwandais de 1994 qui a fait environ 800 000 morts. Le gouvernement rwandais estime que le Vatican lui-même devrait demander pardon pour ses crimes. Dimanche dernier, une lettre d'excuse signée par les évêques des 9 diocèses du Rwanda avait été lue dans les églises du pays à l'occasion de la clôture par le pape François de l'année sainte de la miséricorde. Et puis au Soudan, quelques 300 étudiants et lycéens ont protesté ce jeudi à Khartoum contre la décision du gouvernement soudanais d'augmenter les prix de l'essence et du diesel. Des dizaines de membres de la police anti-émeute et des agents de sécurité les ont dispersés après avoir bouclé le quartier où les jeunes s'étaient rassemblés. Le Soudan a annoncé début novembre avoir l'augmentation des prix de l'essence et du diesel à la pompe, une augmentation d'environ 30% en raison d'une pénurie chronique de carburant causée par un manque de devises étrangères. Cela s'est traduit par la hausse des prix de plusieurs autres produits, dont les médicaments, d'où des réactions hostiles dans la population.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Politique américaine maintenant, le président élu Donald Trump a insufflé une dose de diversité dans son équipe en cours de formation en nommant mercredi au poste d'ambassadrice à l'ONU Nikki Haley, une jeune gouverneure d'origine indienne, et une autre femme, Betsy DeVos, à l'éducation. Monsieur Trump pourrait aussi annoncer la nomination de son ancien rival de la primaire républicaine, Ben Carson, le Noir, au poste de ministre du Logement. Le point avec Anne Albertson.
En nommant Nikki Haley, 44 ans, gouverneure républicaine de Caroline du Sud, M. Trump semble vouloir élargir sa base. Mme Haley l'avait critiquée avec virulence lors des primaires et pris position pour l'un de ses rivaux, Marco Rubio. Aux États-Unis, l'ambassadeur à l'ONU, poste occupé depuis 2013 par Samantha Power, est membre de l'administration et donc l'un des principaux collaborateurs du président. Madame Haley, dont la nomination devra être approuvée par le Sénat, sera chargée à l'ONU de suivre notamment les crises en Syrie et en Ukraine, des dossiers sur lesquels Donald Trump a affirmé vouloir davantage de coopération avec la Russie. Donald Trump a aussi nommé la femme d'affaires milliardaire et philanthrope Betsy DeVos, 58 ans, comme ministre de l'Éducation. La nomination de Ben Carson au logement devrait être annoncée prochainement, a lui-même indiqué le neurochirurgien à la retraite sur sa page Facebook. Donald Trump, en ce moment en Floride pour la fête de Thanksgiving, va profiter de ce long week-end pour peaufiner la constitution de son équipe et pourvoir trois postes clés. Le chef de la diplomatie, le secrétaire à la défense et le secrétaire au trésor. Selon les médias américains, Mitt Romney, ancien candidat à la présidentielle en 2012 et féroce contempteur de Donald Trump, reste en course pour se voir confier les affaires étrangères.
Toujours aux États-Unis, les Américains célèbrent aujourd'hui le Thanksgiving, la journée d'action de grâce, une journée fériée chômée, l'occasion de se retrouver en famille et entre amis pour partager la tenue traditionnelle. Dans la région de Washington, des volontaires se réunissent à des réfugiés arrivés récemment pour un dîner spécial d'action de grâce. Elisabeth Tchernoff était parmi eux et son reportage est rendu ici par Lionel Gaïma.
C'est un Thanksgiving assez particulier qui réunit à Arlington des habitants et des réfugiés arrivés récemment dans ce quartier de Virginie, non loin de la capitale américaine. Partager un repas pour une fête typiquement américaine. Kidis Tesfai est arrivé aux États-Unis grâce à une ONG, le Conseil éthiopien au développement, qui aide les réfugiés à trouver du travail, des écoles et des endroits pour vivre.
Je suis vraiment contente de travailler avec les réfugiés.
Ce repas de Thanksgiving vise à souhaiter la bienvenue aux réfugiés qui viennent d'arriver aux États-Unis.
Le but, c'est de leur apporter l'amour et montrer que les États-Unis, c'est l'opportunité. L'Amérique est pour tout le monde, c'est ça le programme du dîner.
Être autour d'une table pour ce dîner de Thanksgiving est en quelque sorte un buffet multiculturel. Sadiq Ali Haidari est venu du Pakistan avec sa fille âgée de 19 ans. Je crois que c'est mon cinquième ou sixième Thanksgiving. Rayonnant de sourire, Chandra est originaire du Sri Lanka.
C'est très sympa. Je vois beaucoup de gens venus de pays différents et une nourriture différente.
Il n'y a pas de débat politique à ce dîner. Seulement les gens à table pour apprécier la bonne compagnie de la nourriture. Sarah Zulo est membre de l'ONG Conseil éthiopien au développement.
Lorsque des personnes partagent un plat, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Soudain, elles se rendent compte qu'elles ont beaucoup plus en commun que de différences.
embrasser ces différences est cela qui a permis à l'ONG de tenir plus de 30 ans. Le docteur Tesha Etefera, président et fondateur de l'ONG, Conseil éthiopien au développement. Notre rôle dans le processus d'installation des réfugiés est de les intégrer à la communauté. Il n'y a pas meilleur moyen que Thanksgiving comme partie de ce processus. Ensemble, ces familles qui rêvent d'un avenir meilleur aux États-Unis rompent le même pain, suivant une tradition bien américaine.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.